Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Plus de 30 000 morts, c'est le dernier bilan annoncé par le Hamas il y a quelques jours. Au-delà de ces chiffres, à Gaza, on trouve des conditions de vie inimaginables, des personnes entassées dans des abris faits de briques et de brocs, sans eau potable ni nourriture, des hôpitaux qui peinent entre bombardements et manque de matériel à gérer l'afflux de blessés et de malades. Comment l'aide humanitaire s'organise-t-elle, si l'on ose ce verbe, depuis le début du conflit? Quelles ressources les ONG ont-elles à leur disposition? Pour en parler, je vous ai invité Claire Magone, bonjour. Vous êtes directrice générale de Médecins Sans Frontières. Alors, il faut peut-être commencer par nous dire justement de quelle manière Médecins Sans Frontières est présent à Gaza.
Bonjour, Médecins Sans Frontières est présent à Gaza depuis de façon continue depuis 2000 et on est présent à travers nos 300 personnels palestiniens qui sont sur place et depuis début octobre à travers aussi notre personnel international qu'on a évacué dans un premier temps et qui est revenu depuis. Donc on a aussi une vingtaine de personnels internationaux qui vient prêter main forte au personnel palestinien qui est sur place et qui ne peut d'ailleurs sortir de Gaza.
Et oui, parce que alors c'est une évidence, mais bon, il faut le dire, Claire Magone, les personnes qui travaillent pour Médecins Sans Frontières sont exposées à la guerre comme les autres Gazaouis.
Ah, nous sommes acteurs, on va avoir l'occasion d'y revenir, sous contrainte à Gaza, et nous sommes témoins et victimes, en effet, de l'extrême violence de la guerre et des bombardements à Gaza, puisque nous avons perdu déjà 5 de nos collègues depuis début octobre.
Vous qui avez l'habitude, Médecins Sans Frontières, c'est le rôle de l'association d'avoir à intervenir dans des zones de guerre. Si vous deviez donc situer ce qui se déroule à Gaza par rapport à ce que vous avez déjà connu, Claire Magone.
Les points de repère sont difficiles à trouver. D'abord, en termes de mortalité, la mortalité journalière qui caractérise la situation à Gaza, elle est inédite. Et le fait que ce sont avant tout les enfants et les femmes, mais avant tout les enfants qui sont les victimes des bombardements, c'est quelque chose que nos équipes ont rarement, voire jamais, je pense, eu l'occasion d'assister. Ensuite, il y a le fait que nous soyons enfermés, enfin que la population soit enfermée sans échappatoire dans un territoire extrêmement réduit, où finalement chacun est à portée de bombes, de tirs de sniper, de chars, et donc ce sentiment finalement que l'ensemble de la population secouristes compris et exposé à une forme de roulette russe. Donc vraiment, le niveau d'insécurité, de dangerosité est extrême et le niveau de pénurie est tous les jours plus extrême également.
Pourquoi d'abord les enfants ?
Pourquoi d'abord les enfants ? Parce que la population de Gaza est extrêmement jeune et puis parce que les bombardements largement indiscriminés touchent les zones résidentielles et donc les enfants sont les premières victimes de ces bombardements, en fait, tout simplement.
Ça ressemble à quoi, Gaza, Claire Magone ?
Ça ressemble à quoi, Gaza ? Donc, depuis 5 mois, hein, on l'a vu, la majorité de la population a dû être déplacée plusieurs fois. Aujourd'hui, ce qui caractérise la situation à Gaza, c'est 1,3 million, 1,4 million sur 2,2 millions de la population qui est entassée, acculée. À l'extrême sud, en fait, de Gaza, donc dans des conditions de promiscuité qui sont terribles. Ce sont des gens qui ont tout perdu plusieurs fois. Ils se sont d'abord, ils ont, certains d'entre eux ont obéi aux injonctions de l'armée israélienne de quitter le nord pour d'abord se réfugier dans des zones qu'ils pensaient sûres. Et puis après, puisqu'aucune zone n'est sûre aujourd'hui à Gaza, qu'ils se sont réfugiés par attrition, j'ai envie de dire, dans cette zone maintenant face au mur finalement infranchissable, aujourd'hui quasiment infranchissable de l'Égypte, vivent donc dans des conditions de promiscuité extrême, de dénuement extrême. L'accès à l'eau potable, qui a toujours été problématique à Gaza, est devenu extrêmement... quasiment personne n'a accès à de l'eau véritablement potable.
Pourquoi ? Parce que les ressources en eau, elles sont produites à partir de désalinisation. À partir de quel procédé, Claire Magone ?
Absolument. En fait, beaucoup des sources de... La majorité des sources d'eau à Gaza sont saumâtres sont, impropres à la consommation. Et donc, pour la désaliniser ou pour extraire dans les zones profondes, enfin les zones profondes de l'eau potable, il faut de l'électricité et donc il faut du carburant, ce qui manque cruellement depuis le début de la guerre. Donc il y a cette situation-là à Rafah, donc extrême promiscuité, extrême dénuement. Le nord de Gaza a été rasé, littéralement, même s'il y a encore quelques centaines de milliers de personnes qui continuent à y vivre, et donc dans un état de dénuement extrême et de privation extrême. Là, je pense que le point de bascule auquel on assiste, même si finalement, le point de bascule dans l'horreur, on n'en finit pas de basculer tous les jours, c'est vraiment cette question de l'accès à l'alimentation. Ça fait quelques semaines seulement, si j'ose dire, que on voit... plus que poindre, mais d'abord on a vu poindre les premiers cas de malnutrition. La malnutrition, c'était quelque chose de totalement inconnu hein, dans cette région du monde, et à Gaza en particulier. Et là, nous-mêmes, Médecins Sans Frontières, on a commencé à voir les premiers enfants mal nourris il y a quelques semaines. Et là, les indications que nous avons via les collectes de données des Nations Unies montrent que la malnutrition sévère est en train de s'aggraver. Or, quand on commence à avoir ce type de situation-là, pas d'accès à l'eau, pas d'accès à l'alimentation diversifiée, voire à l'alimentation tout court, on sait que ça peut aller extrêmement rapidement, extrêmement rapidement.
Alors, Catherine Dutude parlait dans sa revue de presse internationale du petit Yazan, donc ce garçon qui est mort des suites donc de la privation de médicaments et de nourriture. Il avait 10 ans. Est-ce que ce garçon, on a... ceux qui ont vu cette image, son visage en mémoire, s'agit-il d'un cas isolé? Est-ce que vous, qui êtes directrice générale de Médecins Sans Frontières, vous avez connaissance de cas semblables?
Alors, je vais situer un peu l'action de Médecins Sans Frontières, parce que je pense qu'aussi ça illustre un peu la question de l'état sanitaire à Gaza aujourd'hui. Médecins Sans Frontières, nous, depuis le début du conflit, on a essayé de prêter main forte, notamment aux hôpitaux dans lesquels on travaillait déjà avant la guerre. Et pour situer un petit peu les difficultés auxquelles le système sanitaire fait face, on a dû évacuer successivement une dizaine d'hôpitaux. Donc, aujourd'hui, la question de la prise en charge des blessés et des malades, c'est évidemment extrêmement problématique. Le chiffre qu'on connaît de plus de 70 000 blessés, hein, c'est le chiffre des autorités sanitaires, d'ailleurs qui n'est pas contesté aujourd'hui, hein, ni celui des morts, ni celui des blessés. Il n'est pas contesté. Ce qu'on sait maintenant, c'est que il est certainement sous-estimé, puisque le nombre de morts et de blessés, finalement, ne rend pas compte du nombre de personnes qui sont extrêmement... qui sont malades et qui ont des maladies chroniques, comme le petit garçon qui avait donc une maladie congénitale et qui, eux, n'ont absolument pas accès aux soins. Donc nous, la question des blessés eux-mêmes, on travaille dans plusieurs hôpitaux au sud de Gaza, et ce qu'on voit, c'est que les possibilités de prise en charge de blessés sont extrêmement limitées. D'abord, les conditions d'hygiène sont absolument désastreuses. Nous-mêmes, on a par exemple un hôpital à Rafah, l'hôpital indonésien qui est entièrement géré par Médecins Sans Frontières, dans lequel nous fournissons des soins post-opératoires à des gens, donc encore une fois largement des femmes et des enfants, qui dont les membres ont été écrasés dans les bombardements ou qui ont été brûlés dans les bombardements. C'est vraiment beaucoup ce type de blessures auxquelles on fait face et qui dont les blessures sont quasiment directement infecté en fait. Donc en plus, ce sont des blessures extrêmement complexes qui nécessiteraient des soins de longue durée qu'on a du mal à fournir dans ces conditions.
Mais alors, vous par exemple, vos équipes sur place, Claire Magone, comment font-elles pour avoir des médicaments, pour avoir de quoi continuer à travailler? Est-ce qu'il y a des camions qui pénètrent dans Gaza? Alors, il faut rappeler qu'il y a à ce jour deux entrées dans Gaza, une côté égyptien, l'autre côté israélien.
Alors c'est surtout via le point de passage de Rafah que nous pouvons faire venir...
Côté égyptien.
Donc nous, on a réussi à faire venir depuis le début du conflit quelque chose comme 70 ou 80 tonnes de médicaments. Donc nous, on arrive à faire à peu près rentrer notre matériel, même s'il y a quelques camions qui n'ont pas pu rentrer, puisque vous savez, ils sont systématiquement inspectés. Médicaments et équipement médical parvient à peu près à rentrer, mais tout ce qui derrière soutient en fait le système sanitaire, carburant, eau potable, etc., ça reste extrêmement problématique.
Donc, il y a un passage qui est utilisé du côté égyptien, du côté israélien, donc le point de passage de Keren Shalom. Est-ce qu'il est utilisé ?
Non, il n'est pas vraiment utilisé.
Donc, en fait, vous n'avez qu'un biais pour utiliser donc des camions ou différents types de livraison. De toute façon, je ne vois pas d'autres biais, puisque évidemment le largage par avion qui a été employé est quelque chose d'homéopathique. Il n'y a quasiment pas de personnes qui peuvent être nourries par ce biais-là, Claire Magone.
Oui, tout à fait. Alors le nombre de, il faut se rendre compte un peu de la dimension, enfin de la question du besoin d'aide extérieure à Gaza. Avant, en temps normal, si j'ose dire, quand la population n'était que sous blocus, 80% de la population dépendait déjà pour sa survie quotidienne d'une assistance extérieure. Depuis que le siège s'est rajouté au blocus, on a beaucoup commenté dans les premières semaines, et j'ai envie de dire, nous-mêmes, on a joué ce jeu-là, de dire « Ah, 10 camions, 20 camions, 30 camions, ce n'est pas assez par rapport aux 500 camions qui étaient estimés nécessaires par jour. » Mais j'ai envie de dire, on n'en est plus là, en fait, puisque quand bien même, et on en est loin, y aurait-il un nombre de camions suffisants pour rentrer à l'intérieur de Gaza, les capacités de déploiement de cette aide-là, donc encore une fois, tout ce qui permet le déploiement, c'est-à-dire des personnes capables d'organiser les secours sans craindre d'être elles-mêmes bombardées, mais aussi tout ce qui est infrastructure civile qui a été complètement systématiquement et méthodiquement détruit par l'armée israélienne, n'est pas en place, et donc on en arrive effectivement à ces situations de pénurie et de chaos extrême qu'on a vu illustrer la semaine dernière dans la tragédie qui a tué plus de 100 personnes et comme vous le disiez qui par réflexe en fait a suscité un largage homéopathique. En fait, pour nous c'est un peu une espèce de la fausse bonne idée à un problème réel qui pourrait être résolu tout simplement en faisant preuve d'une humanité de bon sens qui est de dire réouvrons les points de passage et assurons le déploiement sécurisé de l'aide.
On va continuer à en parler dans quelques instants. Claire Magone, je rappelle que vous êtes directrice générale de Médecins Sans Frontières et puis nous serons en duplex avec Tamara Al-Rifai qui est directrice des relations extérieures de l'UNRWA. C'est l'office de secours de l'ONU pour les Palestiniens. 7h56 sur France Culture.
6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
8h21, alors que la situation empire de jour en jour à Gaza, où la population peine à avoir accès aux vivres, les agents humanitaires tentent tant bien que mal de stabiliser la situation. Comment venir en aide aux Gazaouis? Quels sont les obstacles rencontrés par les ONG? Nous sommes en compagnie de Claire Magone, vous êtes directrice de Médecins Sans Frontières, et nous sommes en duplex avec Tamara Al-Rifai. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice des relations extérieures de l'UNRWA. Alors l'UNRWA, c'est l'office de secours de l'ONU pour les Palestiniens. J'aimerais que vous nous décriviez en quelques mots cette organisation.
L'UNRWA, c'est l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine. Elle a été fondée suite à la création de l'État d'Israël en 1949. Donc, elle a été fondée pour répondre aux besoins des Palestiniens qui ont perdu leur domicile ou ont été expulsés et sont devenus, donc depuis 1948, des réfugiés. C'est un réseau de 700 écoles, 140 dispensaires et autres services de base pour les Palestiniens en Cisjordanie, à Gaza, en Syrie, au Liban et en Jordanie. Donc, ce sont les endroits, les pays, les zones où vivent les descendants des Palestiniens chassés de chez eux en 48.
Voilà, là, c'est une grosse machine, l'UNRWA.
Très grosse machine avec des services qui ressemblent aux services étatiques, aux services publics, donc un système de scolarisation, un système de santé publique, etc.
Donc, effectivement, ça n'est pas une petite ONG, je ne le dis pas d'ailleurs de manière méprisante, mais on a affaire à un organisme qui est lié donc à l'ONU. Quelles sont les situations que vous observez sur place, Tamara Al-Rifai? On a décrit avec Claire Magone de Médecins Sans Frontières la terrible situation, donc sur le plan sanitaire, sur le plan également donc de la nourriture, avec une situation donc de famine, de pré-famine. Comment décririez-vous les choses, Tamara Al-Rifai?
Un enfant sur 6 de moins de 2 ans aujourd'hui est mal nourri à Gaza, selon l'Organisation mondiale de la santé. 90% de la population gazaouie aujourd'hui fait face à la faim. On parle d'insécurité alimentaire, ce qui veut dire que les gens n'ont pas accès au nombre minimum de calories qui leur permettra de survivre. On observe aussi les maladies aujourd'hui qui se propagent, la diarrhée, l'hépatite A, des maladies respiratoires, des maladies de la peau. On observe l'encombrement dans les abris de l'UNRWA, justement, de l'agence que je représente. Mais on remarque aussi ce déplacement en masse qui rend une partie de la bande de Gaza, comme Gaza dans le sud, un endroit extrêmement encombré, que ce soit à l'intérieur des abris, mais à l'extérieur aussi, en pleine nature, sous les bombardements. Tout ça avec une aide humanitaire qui arrive à Gaza au compte-gouttes. Donc les agences humanitaires comme celles que je représente, comme l'UNRWA, mais bien d'autres, n'arrivent même pas à pourvoir aux besoins urgents de la population gazaouie. C'est vraiment une situation catastrophique.
Alors la situation à Gaza est catastrophique. Claire Magon, vous êtes directrice générale de Médecins Sans Frontières. On a entendu aux actualités que votre ONG intervenait également en Haïti, où là aussi la situation est grave pour des raisons tout à fait différentes. Et je reçois des mails de personnes qui me disent « Mais bon, vous parlez de Gaza, il y a aussi d'autres situations de famine dans le Tigré, par exemple, au Kivu. Qu'en pensez-vous ?»
C'est vrai qu'il y a d'autres crises sur lesquelles on est actif et qu'on peine à mobiliser l'attention médiatique et de l'opinion publique. Vous avez cité Haïti, donc situation de chaos qui ne cesse de s'enfoncer dans le chaos, de désespérance totale. Il y a aussi le Soudan. Nous avons, il y a quelques semaines, publié les résultats d'une enquête de mortalité et de malnutrition qui montre des niveaux tout à fait alarmants et des situations de pénurie terribles. Il y a la situation en effet en RDC où plusieurs centaines de milliers de déplacés sont arrivés
en Goma
en quelques mois.
Donc ça c'est la région auquel nous avons consacré dans les enjeux internationaux.
Absolument.
C'est une région où il y a eu des millions de morts dans l'indifférence.
Bon, je dirais, ça c'était il y a longtemps, des millions de morts, on n'en est plus là, mais des centaines de milliers de déplacés arrivés à Goma.
Des millions de morts qui n'étaient pas liés à la famine, qui étaient liés
à... Tout à fait, c'est pas des situations de famine. En RDC il n'y a pas de situation de famine, mais il y a une situation de violence, d'insécurité généralisée, une épidémie de violence sexuelle notamment autour de Goma. Donc, et des déplacés qui n'en finissent pas non plus d'être déplacés. Donc, en effet, il y a d'autres crises sur lesquelles les équipes de Médecins Sans Frontières sont mobilisées et sur lesquelles il y a moins d'attention médiatique, c'est sûr, qu'aujourd'hui sur Gaza. Après, la particularité aussi de la situation à Gaza, c'est que c'est une situation qui est entretenue finalement avec la complicité active des démocraties occidentales et notamment des États-Unis. Et je pense que c'est ça aussi qui fait une différence en fait.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire, Claire Magon?
Ce que je veux dire, c'est que une humanité de bon sens commanderait que les bombardements cessent immédiatement, puisqu'il y a un lien direct de cause à effet entre l'hécatombe à laquelle on assiste et ce niveau de violence, et que les États-Unis, à chaque fois qu'il y a une possibilité en fait d'appuyer cette demande de cesser le feu, a émis son veto. Donc il y a vraiment ce sentiment à la fois d'impuissance, mais ce sentiment que quelque chose de si simple pourrait être fait pour mettre fin à cette hécatombe.
Mais dans le même temps, Claire Magon, vous qui dirigez Médecins Sans Frontières, on évoquait les largages via des avions donc d'aide humanitaire qui représentent presque, je ne veux pas utiliser un terme trop brutal, mais c'est quasiment de la gesticulation, puisque c'est un camion et demi environ de larguer, et ça signifie que même les États-Unis ne parviennent pas à faire entendre raison au gouvernement israélien pour ouvrir le passage, notamment de Keren Shalom, pour passer l'aide humanitaire. Même chose quand même en Égypte, parce que les Égyptiens pourraient laisser passer cette aide humanitaire à Rafah, ils ne le font pas. Est-ce que vous avez une idée des raisons pour lesquelles les Égyptiens et les Israéliens s'entendent pour... s'entendent de fait, hein, je ne sous-entends pas qu'il y a une alliance de fait à cet égard, mais en tout cas, ils refusent, les deux gouvernements refusent de laisser passer l'aide.
Alors, disons que la population de Gaza, elle est soumise à un rationnement organisé. Effectivement, l'Égypte fait partie de l'organisation de ce rationnement de longue date, mais comme vous l'avez très bien dit, l'histoire du largage humanitaire, c'est, vous avez parlé de gesticulation, c'est le bon terme, gesticulation et même diversion. Donc, je ne mettrai pas tout à fait sous le même plan le pouvoir qu'auraient les États-Unis finalement pour tenter de faire en sorte que la situation actuelle cesse et que le niveau de violence cesse, parce qu'encore une fois, la question, elle est moins le nombre de camions dont on a besoin que les conditions de déploiement nécessaires pour faire en sorte que cette aide puisse être déployée sans être déployée sous les bombes. Donc voilà.
Tamara Al-Rifai, vous comment vous observez les choses? Je rappelle donc que vous travaillez pour l'UNRWA. Pourquoi cette aide est-elle interdite d'entrée par les Égyptiens et les Israéliens?
Pour nous, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que cet acheminement d'aide humanitaire reste au compte-gouttes malgré un avis de la Cour internationale de justice et deux résolutions du Conseil de sécurité. Donc nous continuons en tant que l'organisation la plus étendue, la plus grande, avec le plus grand nombre de personnel et surtout l'organisation qui gère plus de 150 abris où ont trouvé refuge plus de 1 million de personnes. Nous continuons d'appeler d'abord à un cessez-le-feu, pour pouvoir quand même circuler dans la bande de Gaza, toute la bande de Gaza, y compris dans le nord qui est sous blocus. Et nous continuons d'appeler aussi à un acheminement d'aide humanitaire beaucoup plus grand, beaucoup plus signifiant. Vous avez parlé du largage. Le largage aérien doit toujours rester un moyen exceptionnel. Oui. Il faut pas se leurrer. Le plus simple, c'est d'ouvrir les points de passage Rafah et Kerem Shalom et d'alléger la bureaucratie imposée par l'État d'Israël pour ce qu'ils appellent la vérification du contenu des camions et d'arriver à un moyen, un système d'administrer, de gérer ce flot, cet acheminement de camions plus simple, plus léger. Nous parlons aujourd'hui de une agitation, pour utiliser des termes qui ressemblent aux vôtres, une agitation diplomatique et politique au plus haut niveau, au Conseil de sécurité, à l'Assemblée générale, pour moins de 100 camions d'aide humanitaire par jour. Nous sommes très loin du minimum de 500 camions par jour dont nous avons besoin pour pouvoir au minimum des besoins des Gazaouis.
Ça veut dire qu'il y a quand même 100 camions qui passent à Rafah aujourd'hui, quotidiennement?
Il y a au maximum 100 camions qui passent de Rafah et de Kerem Shalom ensemble tous les jours. Mais 100 camions, encore une fois, il faut mettre les choses en perspective. 100 camions, c'est moins de ce que reçoit un supermarché de quartier. Pour une population de 2,2 millions de personnes à Gaza, plus de 70% de la population est aujourd'hui déplacée, 1,7 million. Donc c'est vraiment rien du tout sans camion. Nous faisons appel à un passage de minimum 500 camions par jour. C'était ce qui passait avant le 7 octobre à une bande de Gaza déjà sous blocus, recevait tous les jours 500 camions, un mix entre les camions humanitaires et les camions commerciaux. Aujourd'hui, il n'y a pas de camions commerciaux. Toute la population à Gaza dépend de l'aide humanitaire. C'est extrêmement malsain.
Claire Magone, l'une des raisons qui avait été invoquée officiellement, consistait à dire « bon, mais cette aide, elle va au Hamas et elle ne va pas aux populations civiles ». Qu'est-ce que vous observez sur place ?
Il faut qu'on arrive à distinguer les choses. Elle va au Hamas, donc Gaza est sous gouvernement du Hamas depuis 2007, n'est-ce pas, depuis 2006. Donc le fait que l'accusation selon laquelle l'aide irait au Hamas, ça a été utilisé avant tout comme prétexte pour punir en fait la population civile d'accès à une aide vitale. Donc c'est particulièrement vrai sur les questions de carburant, puisque l'accès au carburant sous prétexte que ça pourrait nourrir l'effort de guerre du Hamas a été complètement contraint. Mais au-delà de ça, et c'est pour ça que je dis qu'il faut distinguer les choses, malheureusement c'est ce que l'armée israélienne ne fait pas, c'est que finalement cette l'argument selon lequel quels que soient les efforts faits pour soutenir la vie civile à Gaza, ça nourrit aussi le Hamas. Ça, ce narratif-là, finalement, il condamne à continuer à écorcher vif la population sous prétexte que le Hamas leur collerait à la peau. Et donc ça, c'est quand même un problème majeur, en fait, aujourd'hui, l'absence de distinction entre la population civile et les cibles militaires d'Israël.
Mais alors, vous gérez, par exemple, le l'hôpital indonésien Médecins Sans Frontières. Est-ce que vous avez vu cet hôpital utilisé donc par le Hamas dans des fins militaires? Est-ce que vous avez vu les tunnels, puisque manifestement des tunnels, je ne dis pas tous les tunnels, mais beaucoup de tunnels partent d'hôpitaux, de lieux civils?
L'hôpital indonésien dont je parlais tout à l'heure, l'hôpital indonésien de MSF Arafah, c'est un hôpital que nous avons entièrement nous-mêmes mis sur pied, on contrôle complètement cet hôpital, on a accès à absolument l'entièreté de l'hôpital, et donc c'est un hôpital qui soigne des patients, et c'est son unique fonction. Le fait que Gaza soit rempli de tunnels, j'ai envie de dire, on le découvre pas aujourd'hui, donc le fait qu'il y a des tunnels sous Gaza, ça fait partie d'une réalité objective. Quand les équipes de Médecins Sans Frontières sont dans des hôpitaux tels que, par exemple, Shifa, la taille de Shifa, c'est la salpêtrière. Et donc, vous avez raison de poser la question, parce qu'on nous pose toujours cette question-là, mais le fait de dire... Nous, à Shifa, à Nasser, c'est un hôpital aussi qu'on a dû évacuer il y a quelques semaines et qui maintenant est hors d'état. Dans ces hôpitaux-là, nous, on n'a pas accès à l'entièreté de l'hôpital. Ce que je peux vous dire, c'est que ce qu'on y voit, c'est ce qu'on y a toujours vu et ce qu'on y voit encore, enfin... quand ils n'ont pas été mis hors d'état de nuire, c'est que ce sont des hôpitaux qui sont bourrés de déplacés, bourrés de réfugiés, bourrés de patients, bourrés de malades, et que le reste, est-ce qu'il y a des caches d'armes dans ces hôpitaux-là? Eh ben, nous, on n'a pas accès à cette connaissance-là. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que jamais les équipes d'MSF n'ont opéré au milieu de lance-roquettes ou de combattants. Et c'est vraiment important, parce que le principe de proportionnalité qui est inscrit dans le droit humanitaire international et qui, autour duquel la question de la perte de protection des hôpitaux doit se mesurer, elle nécessite qu'on observe le coût humain d'une opération, de la mise à terre d'un hôpital au regard de son bénéfice militaire. Nous, on est du côté du coût humain, et ça, on peut en attester. En revanche, la question de est-ce qu'il y a un bénéfice militaire, ça c'est à Israël d'en faire la preuve robuste et certainement pas aux humanitaires de le faire.
Mais Tamara Al-Rifai, vous qui êtes directrice des relations extérieures de l'UNRWA, on imagine que l'UNRWA, pour opérer, y compris dans un cadre humanitaire, est obligée de s'accorder avec le Hamas, de négocier avec le Hamas.
L'UNRWA, comme n'importe quelle agence humanitaire ou ONG, quand on travaille dans une zone de conflit, on est obligé de coordonner, si ce n'est que sur le plan logistique au quotidien, nos mouvements, notre sécurité avec les autorités sur place. À Gaza, les autorités de facto sur place sont les autorités du Hamas. Et donc, nous devons, en effet, communiquer de façon vraiment très factuelle ce qui concerne la sécurité de notre staff, la sécurité de nos opérations. Ce n'est pas une surprise qu'une organisation humanitaire soit en contact avec les parties au conflit dans une zone de conflit.
Mais alors, justement, là-dessus, est-ce que on a des garanties? Puisque l'UNRWA a été au cœur d'une polémique. Je crois qu'il y avait 12 membres de l'organisation qui ont été accusés d'avoir été impliqués d'une manière ou d'une autre dans les tueries du 7 octobre. 12 membres, c'est peu par rapport à la taille de l'UNRWA. Mais est-ce que ça signifie qu'il y a une forme de complaisance de la part de certains de vos membres, voire une aide directe apportée au Hamas, alors que l'ONU doit apporter une aide aux populations civiles?
12 membres sur 13 000 membres de notre personnel à Gaza, c'est moins de 0,01%. Mais chacun de ces cas est un cas que nous prenons très au sérieux et c'est pour ceci qu'il y a une enquête en cours maintenant sur la possible implication de 12 membres de l'UNRWA dans les attaques horribles du 7 octobre. Ceci dit, punir une agence dans son entièreté à Gaza et dans toute la région, et de la décision de certains États de suspendre leur contribution à l'agence qui aujourd'hui même est l'agence la plus étendue, la plus grande à Gaza, est quand même une décision irresponsable, pour dire le moins. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il y a connivence, proximité? C'est ce que l'enquête va voir. Mais quand bien même l'enquête découvre peut-être que certains membres, 1, 2 ou 5, soient impliqués, l'agence l'UNRWA renforcera ces systèmes qui sont déjà très robustes, très solides, pour s'assurer qu'il y ait le moins de risques possibles d'entrave à la neutralité. Il faut rappeler 12 membres sur 30 000 personnes qui travaillent à l'UNRWA dans la région, 13 000 à Gaza.
Claire Bagone.
Je voudrais juste profiter de ce moment pour effectivement souscrire à ce que vous venez de dire et puis rappeler le rôle absolument vital que l'UNRWA joue aujourd'hui à Gaza. En fait, les 13 000 personnes qui amènent l'aide à Gaza, les soins primaires, les infrastructures, etc. Et donc, nous, à Médecins Sans Frontières, on soutient activement en fait la nécessité de garder l'opérationnalité de l'UNRWA et on s'insurge aussi contre la décision qui a été faite et qui contrevient de cesser le financement de l'UNRWA et qui contrevient en effet directement aux mesures conservatoires de la Cour internationale de justice et qui commande finalement aux États membres de tout faire en sorte pour que l'aide humanitaire soit à la hauteur des besoins.
Claire Bagone, à Gaza, il y a donc les Gazaouis et puis il y a aussi des otages israéliens. Est-ce que des membres de Médecins Sans Frontières, puisque vous êtes directrice générale de Médecins Sans Frontières, les ont vus, ces otages?
Bien sûr que non. Nous n'avons pas vu ces otages. Nous, les otages, on ne peut que compatir à la souffrance, à l'angoisse des familles qui sont dans l'anxiété, dans l'attente, mais nous n'avons absolument pas accès, ni de près, ni de loin, à la question des otages.
Même chose, Tamara Al-Rifai, est-ce que l'UNRWA, donc là, vous êtes une organisation d'une autre taille, est-ce que vous les avez vus, est-ce que vous pouvez leur apporter également de l'aide, puisqu'il y a eu des livraisons de médicaments pour ces otages?
À ces otages et nous avons d'ailleurs condamné dès le premier jour la prise d'otages et nous avons appelé à ce qu'ils soient libérés et rendus à leurs familles.
Aujourd'hui, sur cette situation humanitaire, on a compris, Tamara Al-Rifai, que les besoins étaient très au-dessus de ce qui est fait en matière humanitaire de livraison, donc de vivres et de livraison de médicaments. Qu'est-ce que l'on peut imaginer, qu'est-ce que l'on peut espérer aussi pour ce territoire?
D'abord, on peut espérer que les choses se calment, on peut espérer un cessez-le-feu et on peut espérer une réflexion approfondie et sérieuse sur l'après. Car au-delà de l'urgence, sûrement il y a un après, après cette guerre. Quel genre de transition aura lieu à Gaza, pour quel genre de plan de longue durée, quel système de gouvernance, quel futur pour cette société. Et ici, un rappel que l'UNRWA, avec ses services para-étatiques ou quasi-étatiques, est l'agence la plus solide en matière d'infrastructure pour assurer une transition. Ce sont nos écoles auxquelles se rendent plus de 300 000 enfants gazaouis, des filles, des garçons. Ce sont nos dispensaires qui s'occupent des maladies et de la santé des gazaouis. S'il y a une transition jusqu'à un après à plus long terme, avec une solution politique, Inch'Allah, c'est l'UNRWA qui peut assurer une transition réussie. Sans l'UNRWA, ce sera encore plus le chaos, encore plus la catastrophe
donc,
humanitaire.
Ça, c'est un plaidoyer pro domo parce que beaucoup de voix appellent à un UNRWA à nouveau sans l'UNRWA.
C'est très difficile, une transition sans l'UNRWA, vu que nous avons quand même la structure, l'infrastructure humanitaire et de développement la plus étendue sur Gaza.
Claire Bagone, un mot de conclusion. On a compris donc que la situation était terrible. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des nouvelles des livraisons de vivres, de la manière dont les choses peuvent s'organiser, peut-être, on forme des vœux, évidemment, s'améliorer.
Pour si je devais conclure, on parle beaucoup du jour d'après. Moi, j'ai envie de dire qu'on est toujours dans le jour de maintenant et que, avant même de commencer à envisager qu'est-ce qui pourrait être reconstruit, le plus important, c'est d'arrêter de détruire tout ce qui soutient, de près ou de loin, la vie civile à Gaza. Et déjà, ça permettra un petit peu d'épargner les vies qui restent.
Il y a donc des dons qui sont faits. Peut-être parler de cela, puisque donc vous n'êtes pas un organisme para-étatique comme l'UNRWA, vous êtes une ONG, donc vous vivez de la générosité, notamment des Français.
Tout à fait, MSF, on est financé à 99% par les dons privés, et donc effectivement, pour répondre à la crise à Gaza, mais aussi aux crises dont nous venons de parler, que ce soit en République démocratique du Congo, en Haïti ou au Soudan, on dépend entièrement de la solidarité, de la générosité des Français.
Merci Claire Magone, je rappelle que vous êtes directrice générale de Médecins Sans Frontières. Merci Tamara Al-Rifai d'avoir été en duplex avec nous. Vous êtes directrice des relations extérieures de l'UNRWA, l'Office de secours de l'ONU pour les Palestiniens.